Radio Okapi.
Il est exactement 18h dans les studios des Radio Okapi Kinshasa, 19h dans la partie est du pays. Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la chaîne de la paix, la Radio Okapi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord les titres. Anthony Blinken a foulé les territoires congolais ce mardi. L'Air Force 2 qui l'a transporté s'est posé à 14h25 de Kinshasa à l'aéroport international d'Ndjili où il était reçu par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Pas de protocole particulier pour le chef de la diplomatie américaine. Il est attendu au palais présidentiel du Mont Ngaliema pour un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les belligérants disent vouloir protéger leurs communautés respectives des combats se sont déroulés ce dimanche entre les assaillants de la Codeco et ceux de la milice Zaïre. Bilan 20 morts à Kaladaou, en Ituri, dans la région de Berunda, vers la limite avec la province voisine du Haut-Ouélé. Dans cette édition, nous accueillons le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président Félix Tshisekedi. Bonne condition d'écoute. Bonjour, ouvrons notre édition par cette nouvelle qui concerne Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit immédiatement à la prison centrale de Makala ce mardi. Au terme de son audition par le parquet général près la Cour de cassation, l'avocat général Kaif Ousseni a décidé de son arrestation provisoire. Il va incessamment passer en chambre des conseils devant la Cour de cassation en attendant un procès. Rappelons que Kabound est poursuivi pour notamment des faits d'offense au chef de l'État et injures à l'occasion de sa dernière conférence de presse au cours de laquelle il a fait plusieurs révélations qualifiées de faits graves par le parquet. C'est à 14h25 heure locale que l'Air Force est tout transportant les secrétaires d'État américains s'est posé ce mardi 9 août sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili. Anthony Blinken a été reçu au pied de l'avion par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala. Pas de protocole particulier pour le chef de la diplomatie américaine qui est attendu au palais présidentiel du Mont Ngaliema pour un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. L'entrevue de deux personnalités prendra une demi-heure, suivie d'une rencontre bilatérale élargie. Le secrétaire d'État américain est accompagné du sous-secrétaire d'État chargé des croissances économiques, énergie et environnement, José Fernandez, du secrétaire d'État adjointe chargé des affaires africaines, Molly Fair, et du directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, Jude Devermont. Ces deux rencontres seront sanctionnées par une conférence de presse retransmise en direct sur la RTNC. Les gouvernements congolais et la société civile doivent parler avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mettre sur la table la problématique sécuritaire à l'est de la RDC. C'est enfin d'obtenir de lui un appui au gouvernement congolais dans les démarches de pacification de la partie est du pays. C'est ce que pense en tout cas Joseph Dunia Rulienzi, initiateur de l'ONG Promotion pour les droits humains, PDH. Pour cet acteur de la société civile, on peut parler de la paix dans la région des Grands Lacs sans régler les conflits qui opposent les pays membres, notamment la question de la présence de groupes armés en liaison avec l'exploitation minière. Dunia Runyenzi estime qu'avec son influence sur les États de la région des Grands Lacs, notamment le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, les USA pourraient faciliter un allègement diplomatique dans la région afin d'arriver à une paix durable. Il l'a dit ce mardi à Radio Okapi.
En rapport avec la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, nous demandons à ce qu'il puisse s'impliquer dans la relation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous savez que cette question des ressources naturelles, surtout les minéraux, est un enjeu important, mais aussi la présence des groupes armés dans la partie orientale du Congo. Donc c'est un enjeu pour lequel nous croyons que les États-Unis pourraient faciliter un allègement diplomatique entre le Congo et le Rwanda du fait de cette présence de groupes armés, mais aussi la question minière qui est une question économique pour laquelle nous avons toujours proposé l'exploitation des projets intégrateurs entre les États de la région des Grands Lacs, parce que si on travaille ensemble, et si on dissipe les malentendus, surtout sur la question des groupes armés, je crois qu'il y a moyen que les États vivent ensemble et sans conflit éternel.
Selon Maître Dunia Joseph, cette vision permettrait à la RDC de construire ses propres infrastructures, donner de l'emploi aux jeunes et faire disparaître les groupes armés. En Ituri, environ 20 personnes sont mortes à Kalandaou, dans la région de Birunda, limitrophe de la province voisine du Haut-Ouélé. C'était au cours des combats dimanche et lundi entre les assaillants de la Codeco et ceux de la milice Zaïre. Des sources de sécurité rapportent que les belligérants disent vouloir protéger leurs communautés respectives, ce qui a occasionné un mouvement important de la population. Martial Kizabia Mungu.
Les dimanches derniers, les assaillants de la Codeco ont lancé des attaques contre les miliciens du groupe armé Zaïre à Kalandaou vers Boku. Motif invoqué, protéger la population appartenant à la communauté Lori qui serait réduite en esclave depuis plusieurs mois par des miliciens de Zaïre. Selon des sources de sécurité, les miliciens zaïrois majoritaires dans cette région ont répliqué à cette attaque. Plusieurs sources dans la région de Birunda affirment que ces combats se sont poursuivis jusqu'au lundi après-midi. D'après la même source, le bilan est d'environ 20 personnes abattues, parmi elles plusieurs miliciens du groupe armé Zaïre. Ce bilan n'est pas encore confirmé par des sources officielles. 4 armes du type AK-47 ont été récupérées par les assaillants de la Codeco. Ce mardi matin, c'est un calme précaire qui s'observe dans les villages de Kalandaou et Birunda, vidé de la population de la communauté Lori qui a fui vers Makofi à 10 km plus loin. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Rendons-nous à Kalemi. Les déplacés du camp de Moulucha, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kalemi, vivent dans des conditions précaires. D'après l'administrateur du territoire de Kalemi, 2 nourrissons ont perdu la vie il y a quelques jours suite au manque de soins de santé. Il lance un SOS aux autorités et aux organisations humanitaires. Le point avec vous, Paulin Munanga.
D'après certaines sources, plus de 1300 ménages vivent dans les camps de Moulucha. Les déplacés manquent de nourriture et n'ont pas d'abri ni de lieu d'aisance. Pour l'administrateur du territoire de Kalemi, les déplacés ont été recensés puis ont reçu des jetons. Bernard Bokalanganya confirme la mort des 2 nourrissons en quelques jours suite à une infection tétanique. Il souligne que les déplacés ont besoin de l'aide.
Ils sont là, découpés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas d'assistance. Je pense que la première chose, il faut d'abord leur venir en aide et voir s'il y a des irrégularités à combattre. On les combattra après. Ce n'est pas tout le monde qui est irrégulier là-bas. Il y a vraiment des nécessités parmi eux aussi. Ce sont des humanitaires qui sont passés par là parce que nous avons des preuves de leurs jetons, de leurs recensements.
À en croire l'administrateur du territoire de Kalemi, le camp de Moulucha existe depuis quelques mois. Cependant, il n'est pas officiellement reconnu. Des déplacés sont venus de différentes contrées. C'est notamment des anciens déplacés de Kabimba qui provenaient du Burundi et de la Tanzanie, explique-t-il. Contacté, le HCR sous délégation de Kalemi n'est pas au courant de l'existence de ce camp de déplacés. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Affaire meurtre de l'abbé Godefroy Pembele Akikwit dans la province du Kwilu, les présumés meurtriers sont aux arrêts. Selon les commandants urbains de la police de Kikwit, l'un de ses suspects est le cousin propre du défunt prêtre. Le colonel Odon Kachala s'est dit préoccupé et rassure que des enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités. Il a dit à Irène Boma.
L'information est que, je vais parler d'abord des suspects, parce que vouloir donner la confirmation là, c'est le juge qui donne la confirmation pour nous. C'est d'abord les suspects. Donc le premier suspect que nous avons arrêté, c'est un des cousins de l'abbé qui est mort. Il est aux arrêts chez nous. Les autres personnes que nous avons interpellées, c'est toujours dans le cadre de recherches. Nous n'avons pas encore de confirmation nette sur le suicide de la personne. Nous n'avons pas à vous dire exactement. Nous sommes encore dans les enquêtes et dans les recherches. Mais au moins, nous avons interpellé certains suspects. Mais les suspects sur qui les suspicions pèsent le plus, c'est son cousin d'abord qui est aux arrêts. En tout cas, par rapport à l'événement, nous pensons que nous sommes tellement touché par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous allons vraiment nous déployer juste pour éclairer la lanterne par rapport à ces crimes odieux. Un crime capillaire comme ça, nous devons vraiment nous investir pour trouver qu'est-ce qui est arrivé, qui a fait ça.
Au sud Kivu, les villes de Bukavu, Uvira et Goma connaissent de sérieuses perturbations à l'énergie électrique depuis ce lundi 8 août 2022. À la base, les machines de la SNEL Sud Kivu sont tombées brusquement en panne suite à leur vétusté et leur envahissement par les déchets plastiques qui sont jetés dans la rivière Ruzizi. Emmanuel Elamejua Kabedi a visité ce mardi matin la centrale hydroélectrique de la Ruzizi en compagnie des responsables de la SNEL Sud Kivu. Reportage.
La centrale hydroélectrique de la Ruzizi 1er de la SNEL Sud Kivu fonctionne normalement avec 4 machines, dont 2 installées en 1958 et 2 autres en 1974. Mais brusquement, ce lundi, 3 de ces 4 machines sont tombées en panne, plongeant ainsi les villes de Bukavu, Uvira et Goma dans le noir. Monsieur Jovi Mulemangabo, directeur de la SNEL Sud Kivu, parle des causes de cette panne.
On a vraiment des difficultés parce que hier, il n'y a qu'une machine qui fonctionnait. Sur le groupe numéro 4, il y a une fuite très importante, raison pour laquelle on l'a arrêté. Ce sont des groupes qui sont déjà vétustes. Il y a 2 qui ont été installés en 1958 et les 2 autres groupes numéro 3 et 4, ils ont été installés en 1974. Ce sont des machines qui travaillent 24 et 24. Si toutes les conditions hydrologiques sont réunies, nous pouvons aller jusqu'à 29 MW. Mais avec les problèmes que nous connaissons, des niveaux d'eau, des déchets que les gens jettent sur les lacs et qui viennent échouer ici et au barrage de la Ruzizi, on ne peut plus arriver à 29 MW. Souvent, nous nageons entre 21 et 23 MW.
En dehors de cette centrale propre à la SNEL Sud Kivu, une autre quantité du courant électrique provient du barrage de la Sinelac qui dessert le Rwanda, le Burundi et la RDC au Sud Kivu. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, l'interdiction formelle de construire sur les espaces de la société minière de Bakoanga appelée Cité. La suspension des travaux de construction concerne les 5 sites MIBA, soit à partir de la cité 41 jusqu'à la cité 45, ainsi que sur l'espace dite pépinière dans la commune de Lakanchi. Cette décision est contenue dans un arrêté provincial rendu public ce lundi soir. D'après les gouverneurs de province, cette décision est salutaire car elle vise à préserver la paix sociale entre la société minière de Bakwanga Miba et les autochtones Bakwanga. Un extrait de cet arrêté lu ici par André Rosier Nzongola, attaché de presse du gouverneur de province.
Le gouverneur de province, considérant l'impérieuse voie de mettre définitivement fin à l'anarchie manifeste et aux manœuvres illicites d'expoliation dans l'impunité due des concessions foncières de la société minière de Bakwanga, vu l'urgence et la nécessité arrête. Il est strictement interdit de construire des lotis et d'accéder sur les cités 41, 42, 43, 44, 45 et la pépinière de la Biba dans la commune de Lakanchi, ville de Mouchman. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté. Article 3. Le ministre provincial en charge des affaires foncières, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mouchman, le chef des divisions des cadastres au même ressort et le commissaire provincial de la police nationale congolaise sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution sans faille du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
La Fédération des entreprises du Congo FEC appelle la Direction générale des douanes et accises DGDA à annuler toutes ses missions relatives à l'identification, la formation et l'enregistrement des industriels et importateurs de produits d'accises ainsi que l'installation des machines STDA dans les chaînes de production dans les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika. La question du système de traçabilité des droits d'accises STDA fait l'objet des tensions constatées depuis un certain temps et dont les patronats congolais ne cessent de fustiger le comportement des agents de la douane sur terrain. Le syndicat patronal dit attendre de la DGDA un dialogue pour planifier les différends sur cette question. Les détails avec vous, Alain Irung.
La Fédération des entreprises du Congo se dit être en possession de l'ordre de service collectif de la DGDA datant du 29 avril 2022 par lequel Madame Jeanne Blandine Kawanda a mandaté les agents de la douane et les experts de traque et trace pour effectuer une mission dans le Grand Katanga en vue d'identifier, former les entreprises à installer les appareils du STDA. C'est ce que renseigne la lettre de la FEC adressée à la directrice générale de la DGDA le 12 juillet 2022. Dans la même veine, l'AFEC affirme avoir aussi un communiqué signé en date du 5 juillet de la même année par le directeur provincial de la DGDA au Katanga à l'attention des importateurs et producteurs locaux des produits d'accise, les invitant à l'identification, la formation et l'enregistrement au STDA dans les villes de Lubumbashi, Likasi, Sakanya, Makambu, Kolwezi et Kalemi. Dans sa correspondance, l'AFEC réitère à la Direction générale des douanes et accises qu'elle exige que la mise en place de ces systèmes soit faite de manière concertée tout en respectant les lois régissant la matière. La FEC est au regret de vous annoncer que cette attitude, qui ne favorise pas une franche collaboration que nous prenons entre nos deux institutions, s'inscrit dans le schéma de détérioration du climat des affaires très fragile et délétère dans notre pays, renseigne la missive de la FEC à la DGDA.
Actualité internationale.
Le gouvernement guinéen vient d'annoncer la dissolution du FNDC, une coalition des partis, syndicats et organisations de la société civile. Le Front national pour la défense de la Constitution a été le fer de lance de la contestation contre l'ancien président Alpha Condé et s'oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir.
L'invité.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive ce mardi, il est déjà là, à Kinshasa pour des échanges avec les autorités congolaises. Cette visite intervient au moment où la RDC est victime d'une agression des groupes armés et terroristes, et notamment les M23 appuyés par le Rwanda. Ces derniers temps, Washington et Kinshasa ont raffermi leurs relations bilatérales. Plus de détails avec Billy Yvan Lutumba.
Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour Monsieur Billy.
Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain effectue une visite ici à Kinshasa. Quelles sont les attentes principales du pouvoir de Kinshasa par rapport à ce séjour de Anthony Blinken à Kinshasa?
En réalité, cette visite de Anthony Blinken à Kinshasa est là pour renforcer les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays. Et vous imaginez bien que les discussions tourneront autour de la situation sécuritaire à l'est du pays, dont notre pays est victime de l'agression M23 par Rwanda, mais aussi une visite qui nous permettra de discuter sur les moyens de renforcer nos relations d'affaires entre nos deux pays, notamment à travers le commerce. Comme vous le savez, la RDC a été instaurée dans AGOA pour nous permettre justement des échanges commerciaux entre les deux pays. Nous allons parler économie en général, nous allons parler coopération militaire qui a été signée entre nos deux pays depuis 2020.
L'actualité à présent, c'est cette agression de la RDC par le M23 avec l'appui cité du Rwanda. Et juste après Kinshasa, Anthony Blinken se rendra à Kigali au Rwanda. Pensez-vous qu'il faille continuer avec la diplomatie ou plutôt insister à présent sur les sanctions contre le Rwanda?
Je crois que la diplomatie de haut niveau prônée par son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de donner ses fruits aujourd'hui. Le fait qu'il y a par exemple le groupe d'experts des Nations Unies qui vient de publier son rapport, bien sûr qui est confidentiel, qu'il a soumis au comité des sanctions des Nations Unies. Vous avez plusieurs rapports qui attestent de la situation réelle sur le terrain à l'est du pays. Donc tout ceci sont des démarches diplomatiques qui aboutissent aujourd'hui à des résultats concrets. Donc la diplomatie ne s'arrêtera jamais et devra continuer, même si après il y a d'autres canaux pour faire passer des messages, ça peut être des approches militaires, mais la diplomatie a toujours un pas d'avance par rapport à toutes les autres approches qui existent. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, on a parlé suffisamment. Ce que nous pensons effectivement, c'est que s'il y a un pays, selon la charte des Nations Unies, la charte de l'Union africaine, agresse un pays, qu'il soit voisin ou ailleurs, normalement, il y a donc tous ces canaux et tous ces cadres légaux qui existent pour pour pouvoir prôner justement l'appel aux sanctions et le reste. Donc, encore une fois, les sanctions restent quand même des instruments très forts et très puissants pour pouvoir résoudre des problèmes comme des problèmes d'agression et le reste.
Et s'il faut un message que Kinshasa pourrait transmettre à Kigali, ce serait lequel?
Le message, il est déjà passé de toute façon, il continue à le passer. Il y a des choses qui ne sont pas dites sur les ondes de la radio ou de la télévision, encore dans les réseaux sociaux, mais je peux vous dire que le message qui est destiné au Rwanda, il ne vient pas forcément de la RDC seulement, mais même les États-Unis eux-mêmes, je crois qu'ils ont déjà haussé le ton sur ou contre le Rwanda depuis que les hostilités ont été déclenchées par le M23.
Je me rappelle que vous avez été à l'aéroport d'Ndjili pour accueillir des troupes américaines ici en RDC. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette coopération militaire?
La coopération militaire avec les États-Unis se porte très bien. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'efforts que nous devons fournir des deux côtés, dépendant de la dynamique sur le terrain. Mais je pense que cette visite, par exemple, que vous avez mentionnée, a été très importante, elle a été très cruciale par rapport aux événements et la position que les États-Unis adoptent aujourd'hui sur la situation à l'est du pays. Donc, nous sommes en train de voir comment discuter et augmenter, si je peux dire, les niveaux de coopération particulièrement militaire et dans le domaine de la défense en général pour faire bénéficier à nos deux pays.
Parlons du partenariat privilégié RDC États-Unis. Ça a été longtemps chanté, mais sur terrain, on ne voit rien de concret par rapport à ce partenariat privilégié tant chanté par Washington et aussi Kinshasa.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons partie de plusieurs programmes, non seulement d'assistance, mais de plusieurs programmes d'investissement des États-Unis vis-à-vis de la RDC. Je citerai par exemple la dernière initiative, là où la RDC va bénéficier du financement dans le secteur de l'agriculture. L'initiative s'appelle Feed the Future, qui est une initiative américaine pour pouvoir emmener la résilience en agriculture. Non pas seulement pour nourrir les populations congolaises, mais aussi ceci positionne la RDC pour pouvoir jouer un rôle au niveau même de l'Afrique centrale et même des autres régions du continent. Il y a une autre initiative qu'on appelle Mineral Security Partnership pour un partenariat stratégique avec des pays comme la RDC qui produisent des minerais stratégiques qui servent notamment aux fabrications des véhicules électriques et autres. Donc il existe des programmes qui positionnent aujourd'hui la RDC en tête de la liste du partenariat stratégique avec les États-Unis, juste parce que nous parlons du partenariat privilégié qui existe entre nos deux pays.
Professeur Serge Tshibangu, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Chers auditeurs, je vous dis merci infiniment de votre fidélité à la chaîne de la paix, la Radio Okapi. Je vous souhaite bonne suite des programmes.